Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's see King Sandinger House. Hi,
I'm Radio Rosana Piperis.
For who's again the Navarro?
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes en Israël avec un Benjamin Netanyahou décidément en fin de règne, on va dire, mis en examen, dans une impasse politique aussi. Une manifestation de soutien hier a réuni très peu de personnes, mais méfions-nous des conclusions hâtives. Le bruit du monde est au Tchad, comment être un opposant face à un Idriss Déby et aussi sur fond de terrorisme, c'est ce que nous rapporte François-Xavier Frelon. Le bruit du monde, la suite, c'est Amélie Perrier avec des femmes dans les manifestations chiliennes et des fours au Bangladesh. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un film afghan, une fresque afghane même, qui là nous emmène avant les talibans. 18h55, Le Monde à l'envers et Franck Madvon. On va parler de Chine et de diplomatie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Piotr Smolar.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter, vous avez été correspondant du Monde à Jérusalem. Votre dernier livre, je le rappellerai tout à l'heure aussi, s'appelle « Mauvais Juif ». Il est paru aux éditions de l'Équateur. Je suis tenté de vous poser la question d'un coup, mais si vous me répondez oui directement, je pense qu'on va avoir du mal à combler les 15 minutes qui nous restent. Mais quand même, est-ce que Benjamin Netanyahou est mort politiquement? Alors, est-ce qu'on dit ça comme ça?
Alors, s'il y a une question à laquelle il vaut mieux ne pas répondre, c'est
celle-là. Okay.
Mais par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il se retrouve dans une situation de grande détresse politique. Mm-hmm. La manifestation, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, de ses supporters hier, n'a
c'était
pas...
C'était triste, quasiment. Enfin,
il y avait un petit côté glauque. Ouais, et il y avait surtout un côté très repli de la base, mm-hmm. la plus fanatique sur elle-même, mm-hmm. qui est très spectaculaire. Donc il est dans une situation de grande détresse, de plus, surtout parce qu'il vient de subir une triple inculpation, mm-hmm. et qu'en gros, tout est suspendu à son avenir judiciaire aujourd'hui.
Alors, on a l'impression qu'il s'use, en fait, en quelque sorte, ce Netanyahou, mais est-ce que les inculpations dont vous parlez, c'est le coup de grâce, ou au fond, c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis un certain temps? Cette impasse politique, elle n'a rien à voir avec les mises en examen. Donc, est-ce qu'au fond, c'est un peu le coup de grâce, l'estocade, en fait?
Non, coup de grâce, ça signifierait que c'est déjà la fin. Mmh. Or, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise. Il faut quand même rappeler que, et lui, et Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major entré en politique, ont essayé de constituer une nouvelle coalition d'au moins 61 députés sur 120. Et ils n'ont pas réussi. Mais pour autant, il paraît assez peu vraisemblable, il faut être très prudent, mais assez peu vraisemblable que d'ici le 11 décembre à minuit, un autre député sera en mesure de réunir une coalition majoritaire. Un homme est sorti du bois, et c'est une première, au sein même du Likoud, c'est Gideon Saar, qui est présenté comme un des candidats les plus crédibles à la succession de Benjamin Netanyahou. Mais pour l'instant, il est assez isolé. Les autres cadres du Likoud restent très prudents. C'est un parti, il faut quand même le rappeler, qui est extrêmement légitimiste, qui n'aime pas du tout les Brutus qui essaient de tuer César. Et par conséquent, pour l'instant, Gideon Saar a avancé ses pions, mais il n'a pas du tout remporté la partie.
Il est prêt. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là d'ailleurs? C'est des primaires qui, s'il avance réellement ses pions, Gideon Saar, est-ce que c'est des primaires qui ont lieu? Est-ce qu'il doit frontalement, il doit le donner ce coup de couteau dans le dos à la Brutus?
Pour cela, il faudrait que les procédures, l'organisation du Likoud l'autorise. Il faudrait des primaires effectivement organisées dans la grande précipitation. Mm-hmm. Je pense que c'est pas impossible du point de vue logistique d'imaginer ça, mais par contre, il n'y a pas la volonté de la part de Benjamin Netanyahou de précipiter cette échéance. Gideon Saar, il faut aussi quand même le signaler un premier sondage qui est paru ces derniers jours, apparaît comme obtenant, en cas d'élection, s'il était à la tête du Likoud dans ces élections, il obtiendrait un résultat bien inférieur à Benjamin Netanyahou, aux alentours de 26 et pas au-delà de 30. Par conséquent, il y a évidemment, ça turbine beaucoup à l'intérieur du Likoud, parmi les cadres, pour savoir, est-ce qu'il faut abandonner Benjamin Netanyahou en race campagne devant ses difficultés judiciaires ou pas?
Parce que c'est ça qui est paradoxal et à la fois fascinant. Dans les sondages, il n'a pas dévissé Benjamin Netanyahou, mais en effet, vous le disiez, et on va y venir en écoutant quelques témoignages, une manifestation pro-Netanyahou hier, et ce sont vos mots, Piotr Smolar, et glauque. Donc au fond, on a l'impression qu'ils ne savent pas où aller les électeurs du Likoud. Est-ce qu'ils sont au fond perdus?
D'abord, il faut quand même préciser qu'il y a une base, il y a un noyau au Likoud qui reste extrêmement attaché à la figure du chef. Ensuite, il faut aussi dire que plus largement, au-delà de ce noyau au Likoud, qui est vraiment, qui pourrait se réunir derrière le slogan Bibi Only.
Mais voilà, mais noyau, pardon de vous interrompre, c'est combien ce noyau, en fait?
C'est difficile à dire, il y a 130 000 militants au Likoud. Ça reste vraiment le parti le plus important du point de vue de sa base. Mais au-delà de ce noyau, donc vraiment j'aurais du mal à estimer exactement l'importance sur ces 130 000 militants appelés à se prononcer dans les primaires, il y a plus largement beaucoup d'électeurs de droite, pas seulement du Likoud, donc aussi d'autres partis, qui ont pour priorité non pas le maintien de Benjamin Netanyahou au pouvoir, mais une sorte de guerre culturelle qui est engagée en Israël. Ça signifie quoi, guerre culturelle ? C'est une sorte d'affrontement extrêmement électrique organisé contre les élites anciennes. Les élites anciennes, ce sont les élites plutôt ashkénazes, de gauche, notamment celles qui dominent le monde culturel, le monde des médias, mais aussi, c'est le soupçon qui est diffusé par la droite israélienne et personnellement par Benjamin Netanyahou, ce soupçon qui est diffusé comme un poison, qu'il y aurait une sorte de coup d'État fomenté par un État profond contre lui, pour le faire tomber, par le procureur général, par le chef de la police, par les grands médias qui seraient alliés à eux. Il n'y a aucune raison de croire, dans les faits, à l'existence de ce coup d'État. Au contraire, le procureur général qui vient de prononcer la triple inculpation a été nommé à ce poste par Benjamin Netanyahou. C'est un ancien collaborateur de Benjamin Netanyahou.
Mais ça marche auprès d'un certain nombre d'électeurs, et notamment cette femme que Frédéric Mettezeau a rencontrée dans cette fameuse manifestation glauque dont on parlait juste au début de cet entretien. Écoutez-la.
Bibi ou Rosh Memshala hachi tov she'ei pam haya ba'aretz.
Bibi est le meilleur premier ministre qu'ait connu Israël. Meilleur que Ben Gurion, meilleur que Begin. Je ne parle pas de Rabin, c'était un ivrogne. Le statut d'Israël sur la scène internationale n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Le monde entier respecte Israël, peu importe où tu vas. Va dans le désert du Sahara, va sur l'Everest. Demande qui est Bibi, tout le monde le connaît. Et demande qui est Ben Gurion, personne ne s'en souvient. Il se préoccupe de son peuple, il se préoccupe des Juifs. Il se préoccupe de l'image d'Israël, de l'économie, de la high-tech, de la sécurité. On ne s'est jamais autant senti en sécurité. Il n'y a plus d'explosion dans les autobus. J'espère qu'il y aura un combat, je l'espère vraiment. Parce que la gauche israélienne est encore plus inquiétante que les nazis d'Hitler. Je suis plus effrayée par les gauchistes que par les arabes. Encore plus que par les organisations terroristes. Car le réel terrorisme, c'est la gauche juive.
Très, très impressionnant quand même le discours de cette femme, Piotr Smolar, qui correspond effectivement à ce que vous disiez. La base, le socle Benjamin Netanyahou s'est radicalisé. A-t-il été toujours finalement comme ça? Il y a des mots qui sont extrêmement durs, ou s'est-il radicalisé au fur et à mesure?
Non mais soyons clairs, les propos qu'on vient d'entendre sont des propos résiduels dans la société israélienne, à ce point d'extrémisme. Mmh. Il faut pas leur donner davantage d'importance qu'elles n'ont. Ce sont des propos très spectaculaires quand même.
Ouais.
Et Benjamin Netanyahou porte une très grande responsabilité dans la banalisation d'un certain nombre de propos stigmatisants et haineux en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il a clairement désigné en Israël, depuis plusieurs années, pas ces derniers mois, hein, pas à cause simplement de la menace judiciaire, c'est une stratégie adoptée et développée ces dernières années par son camp, il a désigné une sorte de cinquième colonne à l'intérieur de la société israélienne. Cette cinquième colonne, qui, en gros, si vous voulez, c'est comme une opposition entre nous, entre guillemets, les patriotes, les gens de la droite israélienne préoccupés par la sécurité d'Israël, préoccupés par le standing de l'État hébreu dans le monde, et de l'autre côté, eux, les faibles, les gauchistes, les journalistes, tous ceux qui sournoisement s'emploient à nous affaiblir ou qui pêchent par naïveté face aux terroristes palestiniens. Et cette idée-là, cette opposition complètement binaire et schématique, elle est dramatique même pour l'hygiène dans l'opinion publique, c'est-à-dire pour la qualité du débat, pour la capacité à aborder les grands sujets fondamentaux pour l'avenir d'Israël.
Mais est-ce qu'on se retrouve avec une polarisation au fond qui ressemblerait à la polarisation américaine pour ou contre Trump par exemple, ou quelque chose pour ou contre Orban en Hongrie, enfin, vous voyez, avec ces espèces d'énormes figures comme ça. Est-ce que ces comparaisons ont un sens ou pas ?
J'étais frappé en entendant le témoignage recueilli par Frédéric Mettezo lors de la manifestation, effectivement, par le parallèle que l'on pourrait faire avec les supporters les plus fanatiques de Donald Trump. Mm-hmm. Il y a vraiment ce côté fan club. Mm-hmm. On passe tous les excès, et notamment les questions éthiques n'importent pas. Mm-hmm. Et ça, vraiment, le parallèle entre les supporters de Trump et les supporters de Netanyahou est tout à fait frappant. Par ailleurs, je tiens quand même à préciser une chose. Il y a un argument employé par ce supporter de Benjamin Netanyahou qui est exact. C'est celui du standing d'Israël dans le monde. Mm-hmm. C'est vrai que grâce à l'expérience de Benjamin Netanyahou, grâce à sa culture politique, Israël s'est hissé à un niveau aujourd'hui d'influence dans le monde dont il n'avait jamais joui auparavant depuis sa création. Il a développé des relations partout dans le monde, avec la Chine, avec des pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Est, avec l'Inde bien sûr, et puis avec le Brésil comme on l'a vu il y a quelques mois. Donc ça, c'est effectivement à mettre au crédit de Benjamin Netanyahou. Mais hélas, sa base la plus fidèle ne se préoccupe absolument pas des questions de sa probité, des questions éthiques qui sont pourtant fortement en question dans les affaires judiciaires le concernant.
Et exactement comme du côté américain, effectivement la probité, l'impeachment, tout ça sont des choses qui passent bien au-dessus de la base. Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage. On est vraiment dans un autre style, mais on est dans la même manifestation. Écoutez.
Nous sommes maintenant à une époque de passage d'une élite à une autre, ou d'une élite au peuple. On peut appeler cela le premier Israël face au second Israël. L'État, il est là. La puissance, elle est là. Mais l'essentiel de la route, il est encore devant nous. Nous voulons faire prospérer l'État d'Israël en tant qu'État juif, en tant qu'État qui appartient à son peuple et pas une élite bureaucratique, qui d'ailleurs, c'est un processus qui traverse aussi d'autres pays. Je pense naturellement à l'Union européenne. Aujourd'hui, cette manifestation est avant tout pour conserver la démocratie, pour conserver la souveraineté, pas d'une élite qui se dit « l'État c'est moi, la démocratie c'est moi, la loi c'est moi ».
Et Netanyahou, qui est au pouvoir depuis 10 ans, qui est un monsieur très riche, qui a grandi aux États-Unis, c'est pas l'élite ?
Bien entendu que Netanyahou c'est une élite, mais c'est une autre élite. C'est une élite qui n'est pas déconnectée de la terre, de ses sources.
Alors il y a une chose qui est vraie dans ce que dit ce monsieur, c'est que ce genre de discours, effectivement, on l'entend, alors sous des formes différentes, mais on l'entend ici, chez nous, on l'entend dans d'autres endroits. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de premier et deuxième Israël. Est-ce qu'il y a cette idée d'un autre Israël, en fait? Il y a eu celui, je vais caricaturer un peu, du démarrage et des pères fondateurs, on est arrivé vers tout à fait autre chose, et on est dans ce tournant-là aujourd'hui ou pas? Avec ou sans lui d'ailleurs?
Oui, alors... C'est vrai que cette idée-là est très puissamment ancrée dans la société israélienne et en particulier dans ce qu'on appelle la périphérie. Mm-hmm. La périphérie, c'est ainsi qu'on nomme en Israël les régions les plus défavorisées, par exemple dans le Negev, les plus paupérisées, où effectivement l'attachement à un camp, à une identité, compte, je pense, davantage que l'attachement à l'équilibre des pouvoirs, aux valeurs démocratiques. Mais il y a aussi une forme de tromperie extraordinaire réussie par Benjamin Netanyahou, d'abord parce que lui appartient aux anciennes élites. Mm-hmm. Son père est un grand intellectuel de la droite nationaliste, lui représente totalement les élites, les élites ashkénazes qui ont dominé la première histoire d'Israël. Et ensuite, depuis la victoire du Likoud, la première victoire du Likoud dans des élections générales en Israël en 77, la droite a été quasiment au pouvoir de façon continue. Il y a eu juste quelques années, ça et là, où la gauche est revenue au pouvoir. Il y a une continuité du pouvoir de la droite. Donc, se présenter comme étant victime d'une sorte de conspiration de l'État profond qui serait de gauche est complètement à l'envers de la réalité aujourd'hui en Israël.
En tout cas, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune chance pour que Netanyahou démissionne et décide, par exemple, avant le fameux mur du 11 décembre, de dire, bon, effectivement, le barrage, peut-être que c'est moi. De toute façon, si on repart sur une élection en l'état, le résultat probablement sera exactement le même. Donc je me retire et peut-être qu'il y aura un moyen de former une coalition sans moi. Est-ce que c'est hors de question pour lui? C'est même pas dans sa tête. En fait, pour lui, c'est même pas envisageable ou pas?
Non, ça me paraît complètement invraisemblable parce qu'il a vraiment instillé l'idée que l'État, c'est lui. Mm-hmm. Que le seul garant de la sécurité nationale, c'est lui. que le seul capable de résister face aux Palestiniens ou aux requêtes du Hamas à Gaza, c'est lui.
Mmh. Il paraît qu'il a perdu cet électorat d'ailleurs, précisément à cause des requêtes.
Alors notamment des communautés proches de la bande de Gaza qui sont très remontées, effectivement. Mmh. Mais donc il a tellement convaincu son camp de cette idée-là qu'il était irremplaçable. Et il s'est sans doute auto-intoxiqué aussi au fil des ans, que non, sa démission est très invraisemblable. Mais il faut quand même signaler qu'il y a aussi une forme de couardise parmi les cadres du Likoud qui est tout à fait spectaculaire. Au fil des ans, depuis déjà 10 ans, Netanyahou a fait partir ou a coupé les têtes de ses opposants à l'intérieur du Likoud. Résultat, aujourd'hui, il reste des gens qui ne sont pas très très courageux, pas très vertébrés politiquement. Et ils ont accepté de sauter de la falaise après les élections du printemps, parce que Benjamin Netanyahou n'avait pas réussi à constituer une coalition. Ils auraient pu dire, bon, après tout, s'il ne réussit pas, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait tenter. Oui. Non, ils ont décidé de s'autodissoudre et de précipiter de nouvelles élections. Et là, de quoi s'aperçoit-on ces dernières semaines, ces derniers jours? C'est qu'à nouveau, même si Gideon Saar est effectivement sorti du bois, et en disant que Benjamin Netanyahou ne serait pas en mesure sans doute de constituer une coalition. Mais aujourd'hui, ils font quoi? En fait, ils sous-traitent de façon un peu lâche la question du cas Netanyahou à la justice. Ils attendent que le fruit tombe de lui-même de l'arbre.
Parce que pour l'instant, effectivement, légalement, il peut rester Premier ministre, il peut se représenter s'il le souhaite. Pour l'instant, légalement, tant qu'il n'est pas déclaré coupable, ça marche comment d'ailleurs dans la loi pour ça? Tant qu'on lui dit pas, tant qu'il n'est pas en taule, en gros, alors, il peut toujours se présenter?
Selon la loi fondamentale et selon la jurisprudence, seuls les ministres sont contraints de démissionner en cas d'inculpation. Seuls les ministres. Pas le Premier ministre. Le Premier ministre peut rester en place jusqu'à sa condamnation définitive. D'accord. Mais il y a la réalité judiciaire et par ailleurs, il y a la réalité politique. Si à un moment, sa position va devenir intenable. On ne peut pas être Premier ministre entre 8h et 17h et ensuite entre 17h et minuit préparer ses procès avec ses avocats.
Et judiciairement, ce serait la dernière question, l'échéance ressemble à quoi en fait? Parce que le 11 décembre, c'est vraiment demain, c'est dans une dizaine de jours maintenant, un peu plus. Donc judiciairement, de toute façon, il a beaucoup de temps devant lui ou pas?
On n'en sait rien, c'est un supplice. On a vu dans le cas de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert que les procédures judiciaires s'étalent parfois sur des années. Mmh. Entre le moment de l'inculpation formelle, le premier procès, l'appel, le procès en appel et éventuellement la saisie de la Cour suprême, il peut s'écouler des années.
Voilà, il peut y en avoir des coalitions et des réélections. On verra ça chaque chose en son temps. Merci beaucoup, Piotr Smolar.
Merci
Je rappelle
beaucoup.
Que votre dernier bouquin s'appelle Mauvais Juif. Formidable, et c'est publié aux éditions Équateur. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite, ça se passe au Tchad pour Le Bruit du Monde et vous verrez la difficulté d'être un opposant dans le Tchad d'Idriss Déby, Amélie Perrier, Le Bruit du Monde sous les radars avec des fours au Bangladesh.
Des fours pour cuire des briques qui polluent énormément, Dakar, la capitale.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, vous nous emmenez en Afghanistan.
Exactement, pour raconter 40 ans d'histoire à partir d'un journal intime qui a donné une grande fresque, le deuxième volet de 5 films qui sort au cinéma aujourd'hui.
Et Le Monde à l'envers avec Franck Madvon. Franck, la Chine en tête des représentations diplomatiques dans le monde, alors ça dit beaucoup de choses.
Oui, on verra que les routes de la soie sont aussi diplomatiques.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Bah, il passe par chez nous, tiens, Saint-Germain. Les textes sont en anglais tout de même. Sure thing sur France Inter.
Morning, drowning me. Well, in the morning, be you. Morning, drowning, baby.
Le bruit du monde ce soir nous emmène au Tchad, au cœur de cette région du Sahel qui nous occupe tellement depuis hier, le Tchad pays en guerre contre les djihadistes de Boko Haram. À la tête de ce pays depuis 91, il y a le président Idriss Déby qui en est à son cinquième mandat. Un mandat qui s'achèvera en 2021. Les dernières élections présidentielles, celles de 2016, ont été entachées de fraude, c'est ce que disait l'opposition. Quant aux prochaines élections législatives, dont les dernières remontent à 2011, elles sont régulièrement repoussées. Elles devraient avoir lieu début 2020, allez savoir. Face à ce régime fort, une dictature pour certains, l'opposition a du mal à se faire entendre pour dénoncer la dérive autoritaire du régime. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, les ténors de l'opposition tchadienne veulent organiser ce mois-ci à N'Djamena une grande manifestation à haut risque de la difficulté d'être opposant au Tchad. C'est un reportage signé François-Xavier Frelin.
N'Djamena, ses avions de chasse, ses youyou pour les 28 ans au pouvoir d'Idriss Déby, et puis son opposition. Nous sommes dans le jardin de Salé Kebzabo, 68 ans, l'ennemi de toujours d'Idriss Déby. Autour de lui, des tortues géantes et ses grues couronnées de magnifiques oiseaux au plumage coloré. L'homme a du temps pour lui, depuis qu'il n'est plus le chef de l'opposition, par la volonté des autorités, entérinée par la Cour suprême tchadienne. Motif invoqué, son parti ne serait plus majoritaire dans l'opposition depuis qu'un de ses députés l'aurait trahi pour rejoindre la coalition au pouvoir, le MPS. Kebzabo est pourtant toujours très populaire. Il était d'ailleurs le principal adversaire de Déby en 2016.
Je conteste la décision de la Cour suprême. Je conteste donc la légitimité de celui qu'on a désigné à ma place. Mais je ne réclame plus rien.
Vous êtes un peu blasé, on dirait.
Non, pas du tout. Je peux vous dire que c'est bien tombé. Là, maintenant, j'ai tout mon temps pour faire autre chose que de s'occuper d'une nébuleuse vraiment sans tête ni queue qui s'appelle opposition. Et tout ça, c'est l'œuvre du pouvoir. Hein. Ils préfèrent une opposition divisée. Puis on va entrer dans une autre phase où maintenant, il faut préparer les élections législatives.
Vous y croyez à ces élections, ils ont eu le cœur.
L'année prochaine, que ce soit en début ou en fin d'année, raisonnablement. Ça veut dire qu'ils vont faire cafouillage, ils peuvent faire n'importe quoi, tout sauf de bonnes élections. Et la communauté internationale va condamner. Ça va durer quoi? 6 mois? 1 an?
La lutte contre Boko Haram, voilà l'une des raisons avancées par les autorités pour retarder sans cesse des élections législatives tant attendues. En effet, pas simple d'organiser un tel scrutin dans cet immense pays, régulièrement attaqué au sud-ouest par les djihadistes nigérians, mais aussi au nord, à la frontière libyenne. En février dernier, les militaires français avaient même stoppé une colonne de rebelles tchadiens en 4x4, prête à en découdre avec le régime du président Déby. Encore plus critique de son régime et de la France, accusée de le soutenir, Alabo Mahamat Armat, 65 ans, cet autre ancien candidat à la présidentielle 2016, plus à gauche, tourne en rond chez lui dans sa villa fortifiée et bien gardée à l'entrée. On peut le comprendre, en 2008, suite à une tentative de coup d'état contre le président Déby, l'ancien chef de son parti, Ibni Oumar Salé, a été arrêté par la police et porté disparu depuis. Autant dire que l'argument sécuritaire ne tient pas.
Oui, c'est un alibi. C'est un alibi pour tous ceux qui soutiennent le régime, notamment la France, les États-Unis. Eux, ils ont leur agenda. Et donc, ils ferment les yeux sur toutes les violations graves des droits humains et de toutes les libertés consacrées dans la Constitution. Donc, on laisse Déby faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à tuer quelques, comment dirais-je, Tchadiens. C'est pas très grave, ça n'empêche pas les gens de dormir. Vous savez, c'est quel cynisme. Et donc, venant des autorités politiques françaises.
Dernier espoir pour cette opposition tchadienne vieillissante, désunie et surtout démoralisée, le très populaire et rusé Succès Masra, jeune économiste de 36 ans, qui préfère lui tendre la main, jouer les Mandela. Considéré comme trop jeune, il dirige un mouvement, les Transformateurs, non homologué comme parti par les autorités. Il n'aura donc a priori aucun candidat aux prochaines législatives. Privé d'élus, il est aussi parfois privé de parole. Ses militants ont été plusieurs fois violemment pris à partie par la police lors de manifestations récentes.
Allez, il est temps, après 30 ans d'un exercice d'un pouvoir, avec les résultats que nous connaissons, de proposer une alternative crédible pour l'avenir de notre pays. Et tout ce qui reste au président actuel de notre pays à faire pour avoir une porte de sortie honorable, c'est de créer les conditions pour cette alternance démocratique qui permettra aux Tchadiens de tous bords de travailler ensemble pour l'avenir. Et lui, parce qu'il aura servi sur les questions sécuritaires, sur les enjeux, par exemple, sécuritaires, peut continuer à avoir un rôle. Un rôle d'envoyé spécial peut-être sur ces questions-là.
Au Tchad, l'opposition retourne l'argument sécuritaire contre le camp Déby, qui en abuserait. À force de ne pas jouer le jeu de la démocratie, le régime nourrit la bête, selon elle, car le terrorisme se nourrit aussi des frustrations de la jeunesse.
François-Xavier Frelon, de retour d'N'Djamena, merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, il trouve sur sa route Amélie Perrier. Et le bruit du monde ce soir, Amélie, nous emmène dans les manifestations du Chili avec un rassemblement en particulier qui fait écho à nos marches contre les violences faites aux femmes en France.
Une vidéo en train de devenir virale. Moi, je l'ai découverte par une internaute qui l'a sous-titrée en français. Merci à Narimène Mouassibahi. Une manifestation organisée par le collectif L'Asthésis, un collectif artistique de Valparaiso. C'est pourquoi ces quelques 200 manifestants, chiffre donné par la presse locale, dansent et chantent sur une rythmique entêtante. C'était lundi à la mi-journée, avant que les autres rassemblements débutent dans Santiago, la capitale. Voilà ce qu'elle déclame. Je vais essayer de vous traduire en même temps. Le patriarcat est votre juge. Qui nous juge pour naître. Et notre punition. C'est la violence que tu vois. Le féminicide. L'impunité pour l'assassin. La disparition. Et le viol. Et là, elle dit plusieurs fois, elle coupable, ce n'est pas moi, ni où j'étais, ni ce que je portais. Le violeur, c'est toi. Et ensuite, elles accusent l'État et le président chilien. Voilà une manifestation lundi, journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui s'inscrit aussi dans un mouvement plus large dans le pays. Depuis une quarantaine de jours, les Chiliens descendent dans la rue à Santiago, la capitale, pour réclamer des mesures sociales urgentes, comme l'augmentation du salaire minimum. Les ONG dénoncent de graves violations des droits de l'homme de la part de la police, qui réprime violemment en fin de journée les rassemblements. On compte pour l'instant 23 morts et plus de 2000 blessés.
Une autre chanson, tiens, c'est au Bangladesh.
Et c'est celle des klaxons de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Pollution sonore, pollution de l'air aussi dans cet état voisin de l'Inde. La qualité de l'air de la capitale a été classée comme la pire au monde lundi par un organisme indépendant. Et ce n'est pas seulement à cause du trafic. Dans le viseur, les fours à briques. La Cour suprême du Bangladesh vient d'ordonner la fermeture des fours à briques illégaux. Le gouvernement veut ainsi en mettre à l'arrêt plusieurs centaines. Voilà pour l'urgence. Mais à plus long terme, le Bangladesh voudrait éliminer l'utilisation des briques dans les nouvelles constructions d'ici 2025. Car pour les cuire, ces briques, on utilise du charbon et du bois dans des fours très polluants, en majorité illégaux. C'est un problème énorme au Bangladesh, où le secteur de la construction est l'un des principaux moteurs de l'économie.
Et on termine avec le rapport Jay-Z, qui n'est pas content du tout.
Ah, pas content d'avoir été utilisé pour des livres pour enfants. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the patrol. Foes that want to make sure my... Vous connaissez ce titre, hein, Fabienne? 99 Problems, c'est le titre de la chanson. Ben voilà, et c'est pas vraiment une comptine. Mais c'est un titre utilisé par The Little Homie, une entreprise qui fait notamment des livres pour les petits en reprenant beaucoup de références au monde du hip-hop. Les livres s'appellent par exemple Who Run the World, référence à Beyoncé, ou encore First 50 Words with 50 Cent, mes 50 premiers mots avec 50 Cent du nom du rappeur. Et celui qui fâche Jay-Z, eh bien c'est le AB to Jay-Z, un abécédaire. Et cette phrase en quatrième de couverture, I got 99 problems but my ABCs ain't one. J'ai 99 problèmes mais mon alphabet n'en est pas un. Dans la chanson originale Jay-Z scande, j'ai 99 problèmes mais une fille de petite vertu n'en est pas un. Je vous ai traduit le mot bitch. Mm-hmm. Donc Jay-Z poursuit la société australienne pour une atteinte au droit à la propriété intellectuelle. Ses avocats considèrent, ses avocats considèrent l'utilisation de ses paroles et de son nom vise à blesser dans ses livres pour enfants. Moi, je les trouve plutôt mignons, ces livres, mais ce sera à la justice de trancher la semaine prochaine pour une première audience.
C'est ça. Merci beaucoup. On fera passer le message. Donc à Jay-Z, merci beaucoup. A comme Amélie, P comme Perrier. À demain. Et B comme Brittany Howard. Stay high. C'est sur France Inter. De Stay High. Le mercredi, c'est cinéma et c'est en VO.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO aujourd'hui, c'est direction l'Afghanistan, comme on a pu l'entendre Corinne Pellissier avec ce nouveau film de la réalisatrice dont vous allez prononcer le nom.
Sherbanu Sadat.
Voilà, ça s'appelle L'Orphelinat. Une plongée donc dans les années 80 à Kaboul, au moment du basculement du régime. Une fresque assez remarquable d'ailleurs sur le quotidien du peuple afghan à travers le parcours d'un jeune garçon.
Voilà, il s'appelle Kadratula et ceux qui ont déjà vu le précédent film de Sherbanu Sadat le connaissent puisqu'il était l'un des héros de Wolf and Sheep qui est sorti en 2016. Il faut savoir que son histoire doit être considérée comme un ensemble. C'est une grande fresque tournée en 5 films qui va progressivement décortiquer tout son parcours à partir d'un journal intime, celui d'un ami de la réalisatrice. On va suivre la première étape, la vie dans les montagnes, donc c'était le précédent film. Ensuite, l'arrivée à Kaboul, le deuil du père, l'orphelinat, la prise de pouvoir des talibans, les massacres, l'exil. Tous ces films racontent le pays des années 80 à nos jours. La réalisatrice se donnait en gros une dizaine d'années pour arriver à concrétiser sa fresque. L'orphelinat est le deuxième film de cette série, qui est marqué par le basculement du régime. C'est une période que n'a pas connue Sherbanu Sadat, qui n'a même pas 30 ans, mais son travail sur le sujet est assez remarquable.
Je suis né en 1991 et ma génération ne connaît absolument rien de l'histoire de l'Afghanistan. Ça n'est pas enseigné à l'école et personne ne s'y intéresse vraiment. Avec ce journal, c'était comme une révélation, tout un pan de notre culture qui s'ouvrait à moi, comme un portail. Sur 40 ans d'histoire. Avec son texte, mon ami permet, je trouve, de tout remettre en perspective par rapport au contexte. Comment ne pas en faire un film ?
Alors on imagine le parcours du combattant, hein, Corinne, que ça peut être de faire un film. C'est une femme, elle est jeune, artiste, elle revient sur cette période compliquée du pays, à la manière quasiment d'un documentaire. Comment elle a fait pour travailler ?
Eh bien curieusement, c'est avéré beaucoup plus facile qu'on ne pourrait l'imaginer. Sharbanou Sadat fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs conscients de la situation dans leur pays, mais plein d'espoir. Des réalisateurs qui tournent à l'étranger avec des fonds souvent européens, des réalisateurs qui sont plus libres, mais les comédiens, eux, souvent sont tous afghans, non professionnels. Sharbanou Sadat continue d'ailleurs à vivre, elle, tous les jours à Kaboul, où elle a étudié le cinéma, mais avec une certaine insouciance.
According to many statistics, Afghanistan is the worst.
Quand on regarde les statistiques, l'Afghanistan est le pire endroit pour la condition des femmes. Mais moi, je n'ai pas à me plaindre. Quoi que je fasse, tout le monde s'en fout. Justement parce que je suis une femme, je suis comme invisible. Personne ne va chercher à savoir ce qu'il y a dans mon scénario. Nous vivons certes dans un pays islamique, mais le quotidien n'a rien à voir, par exemple, avec ce qui se passe chez nos voisins d'Iran. Il y a là-bas beaucoup de censure et beaucoup d'artistes qui souffrent. Ils ne peuvent pas tourner de films, ou s'ils bravent les interdits, ils ne s'ensuient que des problèmes. En Afghanistan, ça n'est pas le cas. Et je crois à l'avenir. Il nous faut juste du temps. Nous avons eu des élections le mois dernier. Au final, peu importe qui va l'emporter, ce qui compte, ce sont les 5 années de répit que cela va nous offrir pour travailler davantage et nous imposer. Je me répète un peu, on a juste besoin de temps. Ils ne peuvent pas bâillonner la jeunesse. Ils ne peuvent pas.
C'est une jeune femme très dynamique, pleine de projets. Elle aimerait bien, quand elle aura terminé cette fresque, tourner par exemple une comédie. C'est un genre qui lui irait pas mal, car même si son cinéma est très emprise avec le réel fabriqué à partir de souvenirs souvent douloureux, eh bien il comporte aussi beaucoup de touches de fantaisie qui vont se traduire par exemple dans ce film L'Orphelinat, par des moments très bollywoodiens avec des extraits de musique. C'est assez fascinant.
Mais en même temps, on n'est pas très loin géographiquement. Après tout, ouais, c'est vrai qu'on aime bien la musique très indienne et les films de Bollywood en Afghanistan. Merci beaucoup, Corinne Pellissier. Ça s'appelle L'Orphelinat. C'est signé
Sharbanou
voilà.
Sadat.
Je suis désolée, hein, mais tant que vous êtes
jeune
là,
réalisatrice à suivre.
Tant que vous êtes là, j'en profite. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Franck Madvon. Franck, quel pays détient le plus de représentations diplomatiques dans le monde ? Chaque année, l'Institut Lowy répond à cette question en établissant un classement très complet. Et surprise, pour la première fois cette année, la Chine arrive en tête. Elle devance les États-Unis, ce qui traduit les ambitions diplomatiques de Pékin. Et c'est votre monde à l'envers.
Absolument. Alors d'abord, quelles sont les infos à retenir de ce classement ? Il porte sur 61 pays, en gros, tous ceux qui pèsent dans la diplomatie mondiale. L'étude est limitée, mais elle a le mérite de donner des chiffres, du concret, des chiffres qui montrent bien les ambitions diplomatiques de chaque pays. Et la Chine, donc, est en tête de ce classement. Elle compte 276 postes diplomatiques, ambassades, consulats, missions, 3 de plus seulement que les États-Unis, c'est une première place symbolique, mais ça traduit le fait que Pékin investit dans son réseau diplomatique, on va y revenir. Dans ce classement, la France est 3e, elle reste une grande puissance diplomatique, malgré les coupes budgétaires des dernières années. Cela dit, des postes sont maintenus avec des effectifs, il faut le dire, très réduits, parfois simplement un ambassadeur et un secrétaire. Pour vous donner une idée, le réseau français compte 13 400 agents, c'est 5 à 6 fois moins que le département d'État américain. Derrière la France, on trouve Japon, Russie, Turquie et beaucoup plus loin, à la 11e place, le Royaume-Uni. Londres a longtemps été un géant diplomatique. C'est moins vrai aujourd'hui. Désormais, en Europe, la voix de la France, on le dit beaucoup, porte plus que celle de l'Allemagne, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et du Royaume-Uni, à la fois affaibli et obsédé par le Brexit.
Alors, revenons quand même au cœur du sujet. La Chine, donc, Franck, qui affiche clairement ses ambitions diplomatiques, selon en tout cas ce classement.
Oui, la Chine a progressé très vite. En 2016, elle n'était que 3e derrière la France. L'année suivante, 2e. La voilà donc en tête aujourd'hui. Alors, il faut regarder d'abord du côté de Taïwan pour comprendre cette montée en puissance. Vous savez que la Chine continue à considérer Taïwan comme partie intégrante de son territoire. Impossible donc pour un pays d'entretenir des relations diplomatiques avec Pékin et Taipei. Or, depuis 2016, la Chine a arraché à Taïwan 7 alliés. Taïwan n'est plus reconnu que par 15 États dans le monde. L'île est très isolée. Et on touche là un point essentiel de la diplomatie chinoise. Pékin achètent de l'influence, achètent au sens propre. Les Chinois accordent des prêts, investissent et en échange, ils demandent des engagements en leur faveur. C'est ainsi que plusieurs pays, le Salvador par exemple, ont rompu leurs relations avec Taïwan. Autre exemple, cet été, un Chinois a pris la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Il a d'ailleurs battu une candidate française. Eh bien, pour les diplomates, aucun doute, Pékin a acheté ce poste. Les ardoises de certains pays, leurs dettes auraient été effacées en échange de leur voix.
Et sinon, la Chine, évidemment, profite aussi du recul diplomatique des États-Unis.
Oui, alors soyons clairs, Fabienne, hein, les États-Unis restent la grande puissance diplomatique mondiale. Le classement dont on parle reflète plus les ambitions des pays que leur influence réelle. Mais oui, c'est certain, la Chine profite de l'absence, des absences des États-Unis. Donald Trump se fiche éperdument, en fait, du département d'État. 3 ans après son élection, 27% des principaux postes de diplomates ne sont toujours pas pourvus. C'est énorme. Le président américain rejette le multilatéralisme et la Chine comble ce vide. À l'ONU, les Chinois sont de plus en plus présents. Ils prennent des postes importants. Ils se placent dans les institutions, comme nous l'a confié un haut diplomate. Ils envoient aussi leurs meilleurs éléments. La qualité de la formation des hauts fonctionnaires chinois a considérablement augmenté. Il y a par exemple un programme onusien, les jeunes experts associés, qui permet à des jeunes d'être formés pour travailler aux Nations Unies. L'an dernier, la Chine finance 20 de ses postes, comme la France. L'an prochain, elle en financera 400. Le président Xi Jinping résume cette politique en une formule. La Chine est plus près que jamais du centre de la scène mondiale. Elle se veut en fait incontournable. Alors on peut s'en inquiéter, car elle sert bien souvent ses propres intérêts. Mais la Chine peut aussi être un allié de poids, sur le climat par exemple, pour la France, de l'intérêt de voir un tel géant dans le jeu international.
Franck Madvon et Le Monde à l'envers, merci beaucoup Franck. À demain, on reste ensemble pour le téléphone. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour, ne bougez pas.